bienvenue à La Causeuse. Cette semaine, on a décidé de faire un repeat de découverte de jeux sur plateforme portable. On tire un peu large, par contre, cette semaine. On va y aller dans des hidden gems, des jeux moins connus ou qui n'ont pas eu l'attention qu'on pense qu'ils méritent entre le Game Boy Color, Game Boy Advance et le DS.
Un petit peu de DS par-dessus ça. Là.
Voilà. On va commencer, évidemment, Game Boy Color.
Allons-y en ordre.
Dans les jeux en Game Boy Color, parce que la dernière fois, en fait, effectivement, on a focusé beaucoup sur le Game Boy Advance. Mm-hmm. Il y a eu un titre de Game Boy qui s'était glissé dans le tas. Mais il y a une couple de jeux de Game Boy Color qui, vu que c'est une plateforme qui, un peu comme le Game Boy Advance, là, se retrouvait à être... Le gaming avançait, les jeux devenaient super beaux. Puis il y a plein d'expériences plus classiques qui se retrouvaient sur ces plateformes-là. Il y a un jeu que j'avais découvert à l'époque qui m'a toujours fasciné, Warlocked. Qui s'écrit comme Warlock, mais comme conjugué. C'est Warlock ED, qui est un real-time strategy en Game Boy Advance.
Warlocked, comme dirait un des élèves que j'ai. Là.
Warlocked. Parlons de Warlocked. J'accepte. C'est un RTS. C'est un clone de Warcraft sur Game Boy Color. Puis il y a un petit élément dedans de, je vais dire, Pokémon-ish, parce que tu peux trouver des wizards. Dans certains scénarios. Puis tu peux les trade.
Avec des balles.
Oui, c'est exact. Non, tu peux ils sont juste en train de chiller à quelque part dans la map. Puis tu peux les récupérer. Tu peux les choisir quel wizard t'accompagne dans les scénarios suivants. Puis tu peux les échanger en joueur parce que tu peux jouer évidemment en VS.
Harry Potter, I choose you.
Mais en plus, ils ont vraiment comme des noms super quétaines. On dirait vraiment que c'est des Pocket Wizard, là, c'est... Mais c'est ça, c'est un fucking RTS, puis étrangement, ça fonctionne bien.
Quand je commence, t'as le choix entre Bulb Wizard, Squirt Wizard, puis Char Wizard.
Un Squirt Wizard, là, je...
C'est Water Mage,
ouais. Ouais, c'est un Squirt Mage. C'est... Fait que c'est un RTS. Mais il fonctionne extrêmement bien, puis c'est ça qui est le plus impressionnant, parce que la plateforme est quand même pas si performante que ça. C'est un genre de jeu qui a jamais bien fonctionné, vraiment, sur autre chose que sur PC. Mais l'expérience est bien designée, puis tous les standards du genre sont là, l'accumulation de ressources. On est dans le clone de Warcraft, là. Aller couper des arbres, construire des bâtiments, se faire des unités, aller attaquer. Le seul côté faible, je dirais, du jeu, c'est que le pathfinding est un petit peu limité parfois. Quand tu demandes à tes unités d'aller à tel ou tel endroit, des fois, tu le sais qu'il va prendre le chemin long. Fait que là, tu fais exprès, puis tu recliques.
Ouais.
Puis là, il va prendre le bon chemin, mettons. Fait que c'est la seule chose qui est comme un petit peu une limitation de la plateforme. Mais sinon, le jeu est beau, la musique est bonne. Elle a une petite touche justement là, musique Commodore 64 là, avec des trémolos et des trucs comme ça là, qui est moins classique sur console. Fait que c'est une belle bande son, belle présentation, super bon jeu, puis ça vaut rien là. C'est sous-estimé au bout comme jeu, t'as ça à 10$.
J'avoue que RTS sur Game Boy Color, j'aurais pas comme été joué sans que tu me le dises.
Mais c'est quoi, c'est que t'as comme un curseur,
curseur
que tu déplaces avec le D-pad.
Exact. Le curseur se déplace avec le D-pad, puis il déplace vraiment comme d'une tuile à l'autre. Là. Et il sert quand même du système qui est tile-based, là, comme tout bon vieux jeu. Puis non, ça fonctionne correctement. T'sais. Même les limitations de l'écran, etc., l'échelle des combats, si on veut, est quand même restreinte pour pas que ça devienne problématique. Comme je dis, il faut juste que tu forces un petit peu le pathfinding des fois, là, parce qu'il prendra pas en compte les ennemis qui vont mourir, mettons. Et il recalculera pas son chemin une fois en déplacement. Mais t'apprends à travailler avec, là, c'est pas une grosse embûche. Puis... Sérieusement, à l'époque, c'était impressionnant. Puis aujourd'hui, ben, c'est un beau throwback à un genre qui est moins populaire en partant. Puis en étant un peu plus simple, justement, ça le rend plus accessible aujourd'hui. Là. Fait que c'est un vraiment, vraiment beau petit jeu. Comme je disais, très facile à trouver. Un beau petit hidden gem, à mon avis, sur le Game Boy Color. Un peu moins reluisant, je vais l'admettre. Là. je m'en vais vers Blade en Game Boy Color, qui est un jeu qui... En fait, est meilleur que ce qu'il mérite d'être. Il y a vraiment une vague à l'époque du Game Boy Color où que toutes les licences de Marvel étaient publiées par Activision. Ils faisaient des jeux de toutes. Dans les X-Men, il y avait genre Mutant Wars, il y avait plein de jeux. Il y avait tous des looks semblables qui étaient assez beaux. Parce que les bombes étaient assez chunky. Là. C'est des bombes qui étaient un petit peu genre cartoony, un peu gros à l'écran. Mais que ça faisait un look qui passait bien visuellement. Mais j'ai toujours trouvé que le jeu de Blade, parce qu'on n'a jamais vraiment eu un bon jeu de Blade sur aucune plateforme. Yeah. Pour autant que c'est quelque chose qu'on a...
Désiré.
On a vraiment trippé sur Blade là, quand on était kid. C'était le super-héros nice.
Oui, c'était avant l'abus de films de zombies puis de vampires puis tout ce que tu voudras. C'était avant les vampires qui glossent.
Vraiment un film avec un héros afro-américain avant tout ça. On parle de où le love interest et pas love interest. C'est comme en avance sur bien des affaires. Là.
Sauf que le fait que c'était un afro-américain, ça avait pas vraiment d'impact sur les petits nous autres en région de la Naudière.
White guys de la Naudière.
C'est ça, exact. Fait que tu sais, ça ça
avec vraiment... le recul.
Ouais, exact. C'est ça. Avec le recul, oui, effectivement.
Non, dans le temps, c'était juste parce que, hey, on était des nerds. Là. Hey, on est des vampires, on aime ça des vampires. Puis il y en a. Oh, il y a des vampires au cinéma à faire.
La vraiment... toune est vraiment cool.
Ben, c'est
ouais,
là que je.
Aussi, j'avoue que
la... Malheureusement, la toune n'est pas dans le jeu. Ouais, ils ont pas eu les droits pour Confusion de New Order.
Avec la chip audio du Game Boy, ça aurait donné quoi non plus. Là.
Je suis sûr que ça aurait été nice. Mais.
Ça donne le goût de réécouter Blade, c'est solide.
Ah, oh, mais réécoute juste la scène d'intro. Okay. Ça vieillit super bien. Sérieusement, la scène d'intro, elle passe n'importe quand. C'était bien conçu. Cela dit,
ouais, on est loin. Hein.
Le jeu de Blade est quand même intéressant. Il prend des éléments, oui, du film. Là, visuellement, il se repose beaucoup sur le film. On a le look du personnage du film. On a le gars qui l'aide. Là, j'oublie son nom. Là, Elvire.
Whistler.
C'est pour vrai, Whistler. Oui, c'est vrai. Tabarnak. L'as-tu googlé ou. Waouh! Fait que. Ça fait que t'es quand même Whistler en version genre mal colorée, comme on voit souvent au Game Boy Color. Là. Qui nous assiste à travers l'histoire, mais c'est un mix de plusieurs types de gameplay. On a une section exploration, side-scroller. Imaginez un double dragon, mais qu'on peut pas changer de plan. On est strictement de gauche à droite. Mais on a plusieurs types de prises pour se battre contre les ennemis. Les ennemis, d'ailleurs, qui meurent typiquement à la Blade, là, c'est-à-dire que les ennemis, le squelette vire en poussière, là, ah ouais. En volant, ce qui était très sympathique. Puis on a des segments où on est dans des espèces de corridors vers le fond de l'écran. Puis on doit tirer les ennemis qui arrivent du fond. Fait que ça devient une espèce de shooter à curseur. Mais on doit aussi tirer battre en mêlée les ennemis qui arrivent à gauche et à droite. Fait que c'est un mix de pointer le curseur puis utiliser l'autre bouton pour faire les attaques de mêlée. Fait que comme ces deux mix de gameplay-là, ça devient répétitif très, très rapidement. Mais ce qui est là est le fun. C'est clair qu'il n'y a pas un gros intérêt à finir le jeu. Là. L'histoire est beaucoup contée à travers des portraits avec des lignes de dialogue en dessous. Les boss sont pas très inspirés, mais c'est beau.
Mais la vraie question, c'est quand il y a des portraits, est-ce que quand les gens y passent, ça fait
Non, il me semble qu'il n'y a pas de son. Oh. Il me semble que c'est juste des portraits avec la musique puis du texte, malheureusement. Ça enlève tout le charme des dialogues. Non, c'est ça. C'est un jeu répétitif, mais c'est un jeu qui vaut. Ben, il commence à monter un petit peu en prix, là, mais c'est une affaire d'en bas de 15$. Là. Fait que c'est un beau petit jeu qui visuellement survit bien, même si c'est abusivement répétitif là, après 2-3 tableaux. Là.
T'as sorti son trench coat, ses lunettes fumées,
la tête.
Je m'en allais chanter à toi. Ça chante encore. <t'sais. rire>
Mais, tu peux y aller, je vais rajouter des paroles.
On mettra ça dans les bonus content pour les Patreons.
C'est des plans pour qu'ils enlèvent leur pledge en musique.
Ça va prendre plus d'argent que ça pour que je me ridiculise tant que
à
ça.
À ce point-là.
Ben, c'est ça. J'arrête au cri d'un aigle. Okay, c'est le plus que je fais. Ensuite, Power Quest en Game Boy Color, toujours.
On n'a pas confondre avec Divan Quest.
Qui est un jeu de combat, mais encore une fois, dans la vague des jeux qui ont été inspirés de Pokémon et autres, on a une mécanique où on peut changer. Dans le fond, c'est un jeu de combat, oui, mais qu'il y a une histoire. On est comme dans une espèce de petite ville, puis on se bat contre 12 enfants. C'est des c'est comme des espèces de robots téléguidés qui font okay. Le combat. Visuellement, super beau. Fluide, les animations. Puis c'est un des jeux qui est hybride, là, Game Boy et Game Boy Color. Et on peut changer quand on veut de modèle, en fait. Donc, on peut changer notre personnage en combattant parce que c'est juste un robot téléguidé. Puis on peut les upgrader. On peut acheter des upgrades pour rendre les attaques plus fortes, etc. Ce qui donne un côté genre de progression. Encore une fois, un peu comme Blade, excessivement répétitif. Mais tu sais, c'est un jeu de combat qui, par ouais. Définition, est crissement répétitif.
C'est ça aussi.
Là. Sauf que là, évidemment, ben, tu ramasses du cash en faisant des combats. Fait que là, le côté grinding arrive. Mais l'histoire drive elle-même. Fait qu'elle t'empêche de trop pouvoir tomber dans la répétition, à moins que tu le souhaites vraiment. Mais il y a vraiment comme... Le côté RPG devient un problème quand t'as des ennemis qui sont clairement trop forts. Puis là, faut que tu grindes pour pouvoir avoir un robot assez fort pour aller les péter hey, ou les upgrades suffisants.
Ça, on aime ça, yeah.
C'est ça. Ben, pourtant, tu joues des RPG, tu dois aimer ça.
Ben, non, pas tant.
Ben, c'est ça. Bref, le côté RPG plus traditionnel devient un petit peu un obstacle. Mais les mécaniques de combat, le jeu de combat, il est solide. Il est beau, il est fluide. Les combattants sont très, très variés. Bref, le noyau est très très bon, même si le côté campagne est peut-être un petit peu limité. Cela dit, encore une fois, c'est un jeu qui est autour de 10$, qui est relativement commun, qui vaut à peine. Ensuite, j'ai pas le choix, Blade of Steel.
Ben oui.
En Game Boy Color, pour ceux qui ne...
Blade of Steel.
Pour ceux qui ne sauraient pas, Konami avait essayé de relancer Blade of Steel à la fin des années 90.
OK.
sur console, ce que ça représentait, c'était des espèces de jeux qui se battaient contre NHL. Mais là, ils sont arrivés avec un angle quand même plus, un peu plus arcade, évidemment, parce que c'est Blade of Steel, mais pas tant que ça. Fait que ça avait quand même le côté où on avait une licence de Ligue nationale, fait qu'on avait les vrais joueurs puis tout ça. Mais ce qui est arrivé, par contre, sur Game Boy Color, c'est que c'est devenu tout simplement une version updatée de Blade of Steel qu'il y avait déjà au Game Boy. Donc, on est dans les mécaniques du Blade of Steel 100% classique. Donc, pour tous les fans du vieux NES ou de celui au Game Boy, c'est les mêmes mécaniques de jeu presque abusivement. Sauf que là, on a les vraies équipes avec les listes de joueurs. On peut construire nos lignes. Dans la version d'ailleurs 2000, parce qu'il y en a deux en Game Boy Color, on a NHL Blade of Steel et NHL Blade of Steel 2000.
Okay.
Dans le 2000, on peut échanger des joueurs par infrarouge sur Game Boy Color.
Wow!
C'était quand même poussé. C'est pas si intéressant que ça. En fait, c'est intéressant de le faire, sauf que ça fait qu'il y a des équipes qui sont vraiment pas si intéressantes parce qu'il y a des joueurs qui sont vraiment juste des mardes. Fait que là, ton bonhomme patine pas pantoute ou résiste pas aux mises en échec. Ce qui fait que le côté Blade of Steel, qui est très très tight parce que les joueurs ont tous les mêmes stats en réalité sur la glace, ce côté-là tombe un petit peu à cause des stats des joueurs. Mais en dehors de tout ça, c'est vraiment une belle mise à jour. Puis finalement, d'avoir les vraies équipes dans Blade of Steel, c'est hot. La version 2000 est beaucoup, beaucoup plus rapide que le premier. Même un peu trop. J'étais un fan du jeu classique. Là. NHL Blade of Steel 2000, c'est beaucoup trop vite à mon goût. Peut-être parce que je suis vieux. Mais cela dit, les deux valent la peine d'être joués juste pour avoir une raison de jouer à Blade of Steel puis de revoir tous les vieux non-joueurs qui jouaient dans ces équipes-là dans ces années-là. Le Blade of Steel 2000 commence à monter en prix, sinon le premier est encore assez accessible. Je présume que le deuxième a été peut-être plus tard, moins populaire, mais on est encore dans le range des Hidden Gems. On est encore dans le range de... C'est en bas de 20$, fait que pourquoi pas l'essayer. Là. Un autre bel exemple. Pour finir en Game Boy Color, c'est pas vraiment un Hidden Gem. C'est pas un jeu qui a pas été connu du tout, mais c'est un jeu que je pense qui est sous-estimé. Mega Man Extreme, surtout Mega Man Extreme 2. Le premier Mega Man Extreme, en fait, il était compatible et Game Boy et Game Boy Color, ce qui limitait un peu. Tandis que Mega Man Extreme 2 était strictement Game Boy Color.
Ouais, c'était une coche des technologies de plus.
Exact. Là. Fait que la fluidité du jeu est impressionnante. Ça se trouve, les deux Mega Man Extreme ont le même concept là, où c'est des espèces de best-of de Mega Man X. On retrouve des ennemis de toute la franchise, on retrouve des remixes, des tableaux. Tout est tweaké, tout est adapté, mais on prend des éléments connus. Puis on peut jouer et Mega Man X et on peut jouer Zero. Ce qui donne une bonne rejouabilité au jeu. L'histoire est un petit peu... Bon, en fait, je pense pas que Mega Man X... Il y a... Non, je vais me faire haïr si je dis ça, là. Mais bon, l'histoire est toujours un petit peu difficile à suivre et pas si importante que ça, l'expérience. Bon, on continue dans cette lignée-là. Mais c'est du super, super bon gameplay. Puis c'est pas juste un port de dire hey, « on va rentrer Mega Man X sur des petites plateformes qui sont à peine capables de le faire à deux boutons, en plus. »
Ouais, c'est ça.
Non, c'est vraiment une belle adaptation. Puis c'est un jeu qui est natif à la plateforme. Là. Donc, on n'a pas rien mis qui ne marcherait pas juste pour le profit de faire un port. C'est un bon Mega Man. Puis il y en a même qui le considèrent là, dans les meilleurs Mega Man, incluant toutes les plateformes imaginables, toute la série. Mega Man et Mega Man X, là, il est très, très bien classé là-dedans. Fait que sans être un Hidden Gem, c'est un jeu qui est méconnu, sous-estimé. Plus cher, par contre. Là, on va dépasser un petit peu. Je le vois souvent tourner autour de 25-30, c'est Megaman.
C'est Megaman, c'est ça.
Voilà. Mais pour ceux qui sont en manque de bons Megaman, ce qui peut crissement être le cas, considérant comment que Capcom traite la franchise, c'est une bonne place à aller visiter une bonne expérience de Megaman que vous auriez pu manquer.
Ben ouais.
Voilà.
Puis là, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a juste Mathieu qui joue, c'est parce que quand on commence à Game Boy Color, c'est un peu son univers.
Juste dans l'intérêt de me donner un break, on va skipper au DS, vu que c'était ta plateforme de choix.
Ben, allons-y. En fait, ma plateforme de choix, tu sais, c'est pas tant que c'est une plateforme qui me fait triper que c'est. Tu sais, j'ai déjà parlé, là, il y a une époque dans ma vie où j'étais à l'université, j'avais pas une calice de scène. Puis ce qui était fun avec le DS, qui est une des consoles que j'ai eues dans ce temps-là, puis que je jouais dans le métro, mais dans le vrai métro, là, ce
pas dans le métro de Saint-Gab.
Pas dans le métro de Saint-Gab, là, c'est ça. Non, je jouais vraiment dans l'autobus, dans le métro. Ben, ce qui était le fun, c'est que c'était peut-être la première plateforme où c'était facile d'avoir des ROM qui runnaient dessus, là. Donc, j'avais une flashcard, puis... ben, c'est ça. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate! Ce qui a eu l'effet qu'on appelle là, du magasin de bonbons, où il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux, mais il y en a quand même quelques-uns auxquels j'ai un peu plus joué ou qui m'ont marqué, que je me rappelais quand je me suis mis à y repenser. Bon, c'est des petits jeux particuliers ou différents. Puis bon, je me suis rendu compte en, en y retournant un peu, que c'était des jeux qui avaient généralement pas si bien vieilli nécessairement, mais qui ont quand même quelque chose d'intéressant, puis qui n'étaient pas tout le temps non plus des affaires exclusives au DS ou au nouveau. Mais j'en parle pareil.
Let's go.
Je m'en vais avec ça. Il y a comme trois jeux que j'ai identifiés, puis qui étaient comme. Que j'ai quand même un peu joué là, dans ce temps-là, puis j'ai resté plus que le 12 secondes écart que je restais sur un jeu avant de le switcher. Là.
Ouais, c'est vraiment terrible ça, les flashcards. Là.
C'est terrible pour ça. Exit, ou Exit, si je le prononce comme du monde. Oui. Bon, c'est un jeu où on. C'est pas un jeu de DS là, comme tel, là, mais c'est le DS, c'était la dernière version de ce jeu-là, si on veut.
Parce qu'à l'origine, c'était en PSP.
PSP, ouais. Après ça, Xbox Live Arcade, puis DS en 2008. Donc, Exit, on joue au Mr. Exit. Contre un petit bonhomme noir avec un chapeau et un foulard qui sort. C'est un, c'est un escape artist qui est bon pour sortir d'un building. Fait que t'as le jeu.
C'est un escape artist, il trouve les portes il comme trouve personne. Les portes. Tu sais, quelqu'un dans un stationnement multi-étage, puis t'es comme, c'est où le.
Non, lui.
Monsieur Exit, il est là, puis il sort.
Aucun problème. Fait que, tu sais, c'est un peu un jeu qu'on pourrait voir en mode en version mobile.
Lui, dans un Ikea, là, il niaise pas.
Ah non, il niaise.
Lui, il suit pas les Fletches.
Les Fletches. Fait que quand on parlera de mobile...
Oui, bien sûr.
La semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Câlisse. Ça aurait pu être un jeu qu'on aurait retrouvé sur le mobile, tu sais. Donc, le principe était simple, mais en DS, ben c'était quand même dans les premiers jeux du DS, là, c'était pas comme dans les jeux de la fin. Ils voulaient vraiment qu'on utilise le stylet puis l'écran touch. Puis c'est là, en y rejoignant maintenant, avec, mettons, toutes ces années-là de développement puis d'écran tactile, que tu te rends compte qu'ils ont passé à côté d'une belle occasion de manquer leur coup, de laisser faire. Ou en
tout cas, de laisser faire, ouais.
Plus ça.
Mais je te dirais que moi, j'ai joué sur la version Xbox Live, puis il y a trop de boutons.
OK.
Considérant justement, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, là, c'est un jeu de plateforme avec des contrôles très, très stricts pour naviguer l'environnement. Puis ça fait qu'il faut que tu mémorises chacune des fonctions sur la manette pour être efficace. Puis je te dirais que j'aurais aimé mieux. En fait, je trouve que sur mobile, ça marche bien maintenant.
Ouais.
Parce qu'ils doivent bien attribuer de façon.
Sur j'ai pas.
Ok, je pensais que tu disais qu'il l'était, excusez-moi.
Il pourrait.
Ouais, c'est ça. Ben, à la limite, sur DS, au moins, c'est clair ce que tu pèses comme action plutôt que de faire un mauvais mouvement en te trompant de bouton.
Ouais, parce que les contrôles sur DS vont être que tu déplaces la caméra avec ton curseur, finalement.
Mm-hmm.
Puis avec le stylet, tu vas donner des actions. T'sais, si tu cliques une place, il va. Ben, tu cliques le bonhomme, tu cliques une place, il se rend là. Tu cliques le bonhomme, tu cliques son objet, tu cliques. Mettons l'extincteur, tu cliques le feu, il va l'éteindre. Mais tu peux pas. C'est pas évident de dire ah, il est parti pour telle place, bon, il va dire qu'il est plus loin pour se rendre. Non. Faut t'attendre qu'il soit rendu. Puis, tu sais, peut-être qu'il y aurait une façon améliorée des contrôles à aller chercher qui serait plus facile de mettre des waypoints que de niaiser.
Ouais, c'est des contrôles qui vieillissent moins bien.
Ben, c'est ça. Mais sinon, le jeu, comme tel, est vraiment le fun. C'est un jeu de puzzle. Parce que, bon, un jeu de puzzle de plateforme, faut que tu te sauves. Il y a un feu, ça te prend un extincteur. Il y a une porte barrée, ça te prend une clé. Tu sais, il y a quand même quelque chose de bien. Puis, visuellement, c'était quand même le fun. Là.
Ouais, le look est super beau.
Ouais.
Le look un peu panneau d'avertissement, justement.
Ouais, ouais. Bonhomme, attention aux enfants. Là.
Bonhomme wet floor. Ne regarde pas.
Oui, voilà. Sinon, ben, un peu dans le même début de style visuel, si on veut, c'est N+.
Oui.
N+, qui est, encore une fois, une autre adaptation. Là.
Qui est sur un panoplie de plateforme.
Ouais, ouais. Ben, c'était un jeu Flash au départ. Il est sorti sur PSP, sur DS, après ça, en 2008 aussi. Ton bonhomme...
Xbox Live aussi.
Ah, ça se peut. Oui. J'ai pas vu passer, mais ça se peut. Ah, c'était peut-être la version Flash qui était N.
Ou N++, en fait. Ouais, je sais qu'on va dénier
ouais,
de même.
Ça, ouais. N++, puis après ça, on a sorti N Sharp.
Joke de programmeur, mesdames et messieurs. Pour nos quatre auditeurs qui trouvent ça drôle. Ouais, puis ça. Même pour eux autres, elle est pas si drôle
pas
que,
si que ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ben c'est un petit jeu où tu joues un ninja qui est tout en noir, là, un petit bonhomme noir qui est un ninja, supposément, qui doit se sortir d'une paquet de salles l'une après l'autre, là, en sautant, puis en jumpant, puis en s'accrochant au mur, puis en tombant pas trop haut. Puis, mais le jeu, il est le fun parce que quand tu rates, tu recommences bien vite. Là. OK, tu t'es trompé, tu t'es planté, fine, recommence, puis c'est tout.
Clairement, Super Meat Boy en doit une à N dans son format de répétition facile.
Bon, oui, c'est vrai qu'on retrouve cette idée-là, juste moins de sang.
Puis avec des contrôles moins précis.
Oui, vraiment, puis moins de fœtus aussi.
T'as
le docteur fœtus.
Ça, c'est dans la colonne des pauvres.
Non.
Non, OK, c'est ça.
Non. On aime mieux le Dr. Fetus. Que...
Oui, en fait, c'est dans la colonne des pours de N+, c'est « ne contient pas de fœtus ». Puis dans la colonne des pours de Super Meat Boy, c'est « contient un boss qui est un fœtus ». Tout le monde gagne.
Fait que, encore là, tu sais, c'est pas un jeu que tu parles bien, bien longtemps. C'est le fun, c'est des genres de petits puzzles, tu te promènes d'une place à l'autre. Puis, mais quand même, intéressant pour le DS, c'était le fun de voir ce jeu-là. Puis je finis dans ma petite série. Ben, je finis pas, je vais en rajouter un. je vais avec un que j'ai joué un peu plus. Puis quand j'ai rejoué tantôt, je me suis fait un peu prendre au jeu, justement. Puis j'ai joué pendant 20 minutes quand j'aurais dû mettre sur autre chose. Là. Elite Beat Agents.
Fuck, oui.
Ben oui.
Ben, je pense pas qu'il soit hidden, mais non, fuck it, gâteau. Ben, c'est tellement ça. Bon.
Je suis allé avec des jeux un peu différents, là, qui étaient quand même nouveaux. Là. C'était un jeu de rythme. Fait qu'à l'époque, il n'y avait pas tant que ça. Mm-hmm. Ben, tu sais, je veux dire, c'était l'époque où est-ce que ça ressortait, là, les guitares et tout ça. Mais puis, tu sais, 2006. Pour ceux qui connaissent pas, ben c'est ça, c'est un jeu de rythme où tu dois suivre sur ton écran tactile du DS les beats, mais je trouve qu'il y a une belle synchronisation entre la musique puis les beats, justement, c'est ce que j'ai en rejoint tantôt un peu là. Puis
le concept est tellement ridicule.
Oh,
il est magnifiquement ridicule.
C'est ça, t'es un des agents qui doivent aller aider du monde en dansant en suivant le beat là. Puis c'est
mais puis c'est fou à quel point aussi comment c'est une bonne adaptation là.
Ouais.
Parce que la version japonaise c'est Osu Tatake Wendan. Ouais. Là, je le fasse au moins une fois.
Mais il faut.
Les bonhommes c'est pas des gars en complet. Ils ont des uniformes plus genre noirs à boutons là, collés chinois justement, avec un brassard puis un bandeau. Mais ils ont complètement changé la présentation au complet. Puis probablement la sélection musicale aussi là, je présume là.
Ça ouais, c'est quand même. Ouais, ben non, c'est des trucs américains. Il y a quand même beaucoup de gens là. Tantôt je jouais à YMCA, mais il y avait aussi du Sum 41, là, tu sais, il y a quand même une bonne marge là.
Ben, c'est quand même drôle, je checkais sur la page Wikipédia, puis le Press Start Online, un site internet, plaçait Wendan au numéro 1 du top 25 des jeux sous-appréciés de la liste du DS. Je pense qu'il il mérite amplement là.
Ben c'est ça, puis en rejoint, ça me fait comme ah, il me semble que c'est ça se peut que je le rouvre encore tantôt puis que je continue les autres tunes juste pour le petit plaisir de jouer les tunes, mais aussi les animations là.
Puis, chacune des histoires en fait.
Ben c'est ça, c'est chaque tune et va avec une histoire, puis la dernière que j'ai joué, c'est un chien qui veut retourner chez eux.
Fuck, c'est quoi la tune du bug?
Je m'en rappelle plus, c'est con, je l'ai joué tantôt là.
Je voulais pas le demander pour pas te prendre au piège là, mais
je pourrais même pas te répondre parce que j'ai pas enregistré.
Mais ben, bref, ça chacune des chansons en fait, c'est nos Elite Beat Agents doivent aller motiver quelqu'un à faire quelque chose. C'est ça la narrative. Là. C'est que quelqu'un est en train de faire quelque chose, puis là, il doit réussir. Puis on est comme la squad de motivation musicale qui doit accompagner les efforts. Fait qu'à chaque pause à la chanson, l'histoire, il y a des petites cinématiques qui font évoluer l'histoire jusqu'à sa heureuse conclusion à toutes les fois. D'ailleurs, le jeu finit sur Jumpin' Jack Flash. Vraiment intense. Puis non, il y a vraiment une belle palette.
Ça serait-tu Iowa Star de Deep Purple?
Ouais. Ah oui, le chien gros sur Iowa Star.
Tu sais, au début, le chien, là, il part de super loin, là, il pogne un lift avec deux. Tu sais, c'est ça, tu sais, la première petite cutscene, il pogne un lift avec deux filles super cute, le chien est tout content. Pour ça, le chien est super fin. Fait que là, il va. Il attrape. Là, c'est ça, il y a une madame avec un stroller, là, qui a un carrosse qui échappe une assiette de porcelaine. Puis là, le chien la rattrape au vol, puis elle est contente, elle donne un steak. Puis entre-temps, quand la tune recommence, tes petits bonhommes, ils dansent de gauche à droite vraiment laid. Ils font juste que... Puis la personne ou l'animal que t'aides fait la même stick de danse poche.
Non, c'est parfaitement japonais comme jeu. Puis pourtant, c'est une version complètement
américanisée. Ouais, ouais.
C'est vraiment débile de voir comment ça a vécu. Ça a survécu au voyage ici.
Puis tu sais, je pense que j'ai joué à l'époque quand même pas mal. Je me rappelle avoir été foiré en train de jouer. Puis je rejoue maintenant, je suis comme Colin. Il me semble que... Tu sais, je serais capable de me retaper le jeu au complet, puis je pense que je l'apprécierais plus maintenant que dans ce temps-là. Fait que, ouais, Elite Beat Agents, c'était vraiment cool pour un petit jeu de rythme, là, puis...
Non, mais gars, ça va à peine, là, OK? D'un chanson, là, tu sais, on s'en rend en 2000... Quelle année?
6.
6. Makes No Difference, de Sum 41.
Ben, c'est ça.
Skater Boy, de Avril Lavigne. I Was Born to Love You, Fred Mercury, Queen. Rock This Town, Stray Cats.
Ouais.
Highway Star, YMCA. Material Girl, de Madonna. Let's Dance de Bowie, The Anthem de Good Charlotte.
Ouais, ben c'est l'époque.
Without a Fight de Uba Stink.
Bon, c'est l'époque.
C'est l'époque. Jumpin' Jack Flash des Rolling Stones, qui est comme le dernier tableau dans l'histoire.
Mais tu sais, c'est quand même une solide sélection. Là.
Puis dans les bonus qu'on pouvait débarrer, il y avait Believe de Cher, ABC des Jackson 5. Puis Survivor, oui. Oui, merci, Jeff. Jeff, j'ai rien dit de cet épisode. Puis arrive à ABC.
He says one, two, three.
Puis il y avait Survivor de Destiny's Child, quand on parle de l'époque. Puis je n'ai skippé une couple là, qui pourrait vouloir dire.
Mais c'est tout des tunes un peu folles, genre de party qui vont.
Ouais, oui, puis
qui vont accoter le thème, puis avec la folie du.
Ils ont pas le choix, là. C'est tellement over the top, là.
Quand tu pars une mission, t'as ton boss qui t'envoie, là, qui est comme lui aussi over the top. Bref, vraiment cool. Puis pour vrai, c'est pas un jeu qu'on entend parler souvent. même s'il est, comme un, il est quand même connu, mais...
C'est un jeu culte.
Sous-apprécié en même temps un peu, là. Tu sais, ouais. Culte, mais sous-apprécié, je le dirais un peu comme ça.
Bah, ben, c'est souvent ce qui fait qu'un jeu atteint le statut de culte. Ouais, okay. C'est quand que, justement, la masse populaire... Puis l'apprécie pas sa juste valeur.
Puis en cherchant mes jeux tantôt, là, comme sur ma Ace Card, là, sur ma Flash Card que j'ai encore, tu sais, bon, je reboot mon ordi parce qu'il y a un bug, peu importe. En attendant, je suis comme, tiens, je retourne à mon go-to, puis je me rends compte que ce jeu-là, c'est mon go-to, c'est, voyons, c'est Space Invader Extreme. Puis là, ben, je joue au 2, là, mais Space Invader Extreme 2, là.
Oui.
Colin, que c'est bon, là, qui est du Space Invader, mais. Sur le crack, là. Ça, c'est rien d'autre comme façon de décrire. Mm-hmm. Non, c'est écœurant. Puis ça c'est, écoute, c'est énorme. Puis là, tu tires des. Tu sais, bon, il y a tes aliens, puis tout ça, mais t'as des power-ups. Puis là, si t'en tires un, ça te pogne un bonus round, que c'est juste genre de la destruction. Puis des bonus qui tombent. Puis écoute, c'est ça. C'est écœurant. La musique, ça flash. C'est vraiment nice. Ça aussi, c'est. Tu sais, j'en parlerai pas plus que ça, mais ça, c'est peut-être un des jeux auxquels j'ai le plus joué.
Si vous avez aimé Pac-Man CE, là, Pac-Man Championship Edition, ouais. Là, essayez. Space Invader Extreme. C'est le même genre de respect pour le matériel original. Ouais. Il comprend ce qui est bon du jeu original, puis il crank up.
Moi, je dirais qu'au DS, c'est un peu ce que j'ai... Pour pas tomber dans les classiques, puis ceux qu'on connaît trop, puis qui sont les jeux qu'on connaît, là, quelque chose qu'on peut connaître, mais qu'on a peut-être pas essayé.
Mm-hmm.
C'est mes quatre que j'ai identifiés. Hein.
Fait que c'est moi qui reviens avec le GBA?
Ben ouais, vas-y donc.
Ben un peu, je vais faire écho par contre à ton introduction sur pourquoi le DS était ta plateforme de choix. Moi, une des raisons, puis je pense que j'en ai déjà parlé un peu, là, mais une des raisons pourquoi je suis vraiment tombé autant dans le GBA et dans le Game Boy Color et dans le Game Boy Classic, c'est que dans le même maudite espèce de situation que Dan, où est-ce qu'on était étudiant, on n'avait pas forcément une scène, le Game Boy Advance, très très tôt dans sa vie, a été parfaitement émulé.
Ouais.
C'est une plateforme que, il y a un jeu qui sortait, là, je pouvais aller downloader le ROM la journée qui était sur le marché, puis je pouvais jouer au jeu sur mon ordi. Fait qu'il n'y avait comme pas d'obstacle à jouer à plein de jeux écœurants.
Mais Matt, tu étais donc un... Do what you want, cause a pirate is free.
You are a pirate. Puis en fait, ça a été oui, tout à fait. Pis ça a été justement un des arguments qui m'a justement mené à voir le piratage autrement. C'est-à-dire que j'ai tout fait... c'est pas un des jeux que je vais parler, là, parce qu'il est loin d'être méconnu. Mais Castlevania, Aria of Sorrow, mm-hmm. Je l'ai tout fait sur émulateur. Puis la seconde que j'ai eu un GBA, je l'ai acheté puis je l'ai refait au complet.
Ouais.
Parce que ce jeu-là méritait ça. Mais ce jeu-là était tellement bon.
Tu sais, on en parle, puis moi, les jeux que j'ai parlé, là, Elite, Beat Agent, mettons, puis Space Invaders, c'est sûr que si je les trouve, je les achète. Mm-hmm. Non, vu que je les ai rejoués puis que j'aime bien avoir maintenant les trucs originaux, là, c'est le même principe. Là.
Ben, c'est ça, fait que j'ai joué à tellement de ces jeux-là par émulation parce que tout le catalogue était disponible, j'avais le temps. Puis c'était pas de commencer à fouiller dans des archives, je pouvais suivre au jour le jour les sorties.
Mm-hmm.
Puis c'est ça qui m'a amené justement dans le GBA et dans le Game Boy Color aussi, parce que c'était à peu près en même temps. Puis le Game Boy commençait déjà bien émulé sur la fin de sa vie. Game Boy Color était pas beaucoup plus difficile. Fait que j'ai pu aller piger dans tout ce catalogue-là à mesure. Fait que du moment que j'ai eu la plateforme, puis en vieillissant, ben, ça a été facile pour moi de cerner les jeux que je voulais rejouer, que je voulais essayer, parce que j'en essayais 20 par semaine, comme j'aurais jamais pu faire. T'sais.
C'est clair.
Comme on pourrait même pas faire aujourd'hui, à moins de vraiment... Tu peux pas pirater un jeu de Play 4 comme ça. Là,
mais non.
Même si tu veux, là, ce qui est plus ce qu'on fait.
Mais tu sais, quelque part, ça m'amène sur une réflexion. Sure. Il devrait avoir plus de démos comme il y avait avant. T'sais, ça te permettrait d'essayer un jeu avant de payer 70$ pour l'acheter.
Les fameux démo-disques.
Non, mais, ouais, c'est, mais sérieux, les démo-disques, je pense que ça, c'est un point de nostalgie en soi. Là.
Ouais.
Les jeux sur des démo-disques qu'on a joués, puis rejoués, là... Mais j'ai vu des études, par contre, sur Gamasutra, qui parlaient beaucoup de la valeur d'un démo.
Okay.
Puis en fait, il n'y a pas de bonne raison pour une compagnie de faire un démo.
Ça coûte d'argent, puis ça leur en rapporte pas tant que ça.
Okay. Parce qu'il y en a qui vont soit juste savoir... Ah, j'ai assez joué. Je suis comme, ah, c'était le fun, le jeu, mais j'ai assez joué avec le démo. Okay. Fait que je n'achèterai pas le vrai jeu. Fait qu'il n'y a pas d'argent à gagner pour une compagnie de faire un démo. En tant que consommateur, c'est un peu un point de marde, parce que ça nous donne moins de choix. Mais ça nous mène où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Puis pourtant, les jeux sur mobile, par contre, font des espèces de démos à plein parce qu'ils mettent des paywalls, ils mettent des choses qui restreignent l'accès au jeu. Puis... Mais non, sur les jeux traditionnels, c'est une dépense qui se justifie peu.
Fait que ton Game Boy Advance, t'as choisi quoi ce fois-là?
En Game Boy Advance, en fait, je voulais rementionner, on y a donné un segment au complet, je vais juste vous dire, allez l'écouter, Sigma Star Saga.
Ouais.
Publié par Namco et développé par WayForward. on en a parlé en long et en large, a retrouvé l'épisode.
On va se faire un Hall of Fame de nos petites compagnies. Vous savez qu'il y a des compagnies qui reviennent souvent.
Ben WayForward, c'est comme une espèce de semi-darling. Là. Genre, ouais. Tout le monde qui aime le rétro suive ce que WayForward va sortir parce que, bon, ils font du bon stock qui nous intéresse. Fait que j'en parlerai pas plus longtemps que ça. La review a été faite. C'est cool. TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles, la version GBA. Ce jeu-là, pour plus qu'une raison, vaut la peine d'être mentionné. Là. De un, c'est un hommage à River City Ransom pour Game Boy Advance. Fait qu'on a un jeu qui est... Oui, la progression est linéaire, c'est des tableaux, mais on vient toujours à un hub où est-ce qu'il y a des mini-jeux qu'on peut gagner un peu de cash, puis qu'on a des magasins où on peut aller acheter des upgrades pour chacun de nos personnages. Visuellement, super beau. Puis c'est le jeu sur lequel plusieurs des développeurs de maintenant Tribute Games ont travaillé ensemble avant d'aller travailler sur Scott Pilgrim, puis de partir solo. Fait que c'est le jeu où est-ce que plusieurs des gars qui sont maintenant Tribute Games se sont connus. Bon, en fait, où on travaillait ensemble sur un intérêt commun, un beat'em up.
C'est vrai, ça.
Fait que juste pour ça, il y a une petite part d'histoire de cacher dans ce jeu-là. Ensuite, en GBA, Shaman King, Master of Spirits 1 et surtout 2. C'est des jeux, on en a déjà parlé par accident, parce que c'est pas d'eux autres qu'on parlait, puis on les avait mal nommés. Oui. Bon, ça remonte à tellement longtemps qu'il y a juste nous autres qui s'en rappellent anyway. Mais,
ça, j'ai besoin de 4, genre.
Mais c'est des jeux qui sont développés par Konami et que c'est approprié qu'ils soient parce que c'est des jeux qui en doivent beaucoup au Castlevania. C'est des Metroidvania dans l'univers de Shaman King. Je connais pas du tout Shaman King, d'aucune façon. Mais le jeu, visuellement, est extrêmement beau. Puis c'est du Metroidvania. Fait qu'on a plein... Il prend beaucoup d'éléments en fait qui sont arrivés dans Area of Sorrow où est-ce qu'on gagne plein d'items individuels qu'on peut équiper puis qui nous donnent des fonctions additionnelles. Fait que pas juste des équipements comme dans un RPG, mais vraiment des fonctions en combat.
Ouais.
Les autres, c'est sous la forme d'esprit là. Bon. Ouais. Que ça se présente.
Moi qui est méga fan de cet univers-là. Là. Genre, j'ai lu les mangas, okay. J'ai écouté les animés aussi à l'époque. Là. J'ai quand même lu les mangas dernièrement. Ça me fait tripper là, l'idée de Metroidvania. Je savais pas que c'était ça. Tu m'en as déjà parlé. Tu m'as dit, ah, c'est cool comme jeu, mais pas plus que ça. Mais là,
Non, du super beau Metroidvania, assez accessible. Le deuxième est un petit peu plus dispendieux. Mais le deuxième est beaucoup meilleur aussi, par contre. Mais c'est visuellement, moi, c'est ça qui m'avait accroché. Je suis comme, oh shit, c'est comme Castlevania. Puis des Metroidvania à cette époque-là, on les courait parce qu'ils n'avaient pas tant que ça. Puis là, t'en as un qui se présente que tout le monde sous-estime, gros comme c'est le bras. Pour des peanuts le premier, puis pour pas très cher le deuxième.
Je te le volerai quand tu vas aux toilettes tantôt.
c'est bien de m'avertir, merci.
On a des preuves audio.
Ensuite, j'ai deux vrais hidden gems. GT3 Advance. Sérieux, là, c'est. C'est un hard sell, ok? C'est une série de jeux de char de marde que THQ publiait sur Game Boy Advance. Il y en a eu évidemment trois. Les trois ont des thèmes différents, représentent des facettes différentes des jeux de char. Mais le troisième se trouvait. Dans le fond, la meilleure façon de le décrire, je pense, c'est imaginer Need for Speed, mais à travers un moteur à la Mario Kart. Okay. Ce qui fait que le jeu est sympathique, c'est qu'il se présente comme un Mario Kart. On a le même genre un petit peu de... Ben, visuellement, là, c'est-à-dire un plancher, un terrain qui est plat, avec le char en 2D bon, qui tourne là-dessus. Mais on a tout le côté Need for Speed Underground où on a des véritables voitures qu'on peut les upgrader. Puis ça fait un petit jeu qui est super sympa. Ça, c'est des jeux, c'est 5$. Là. C'est le genre de jeu de fond, de rack, de revendeur, de calice. Puis le gameplay est tight. Là. Le gameplay est vraiment le fun. C'est simple. C'était... Mais je pense quand même à sa sortie, c'était des jeux bargain bin.
Wow.
Je me trompe pas, il y a même un pack 2-3 ensemble que tu peux acheter. Le 2, je pense que c'est du rally ou quelque chose comme ça. J'ai les 3. J'ai pas tant trippé sur les autres. Mais le troisième, si on revient un petit peu sur l'idée des D-Make, comme on avait fait le dernier segment de Game Boy, c'est un beau remake d'un jeu qui n'existe pas. C'est un bon jeu de char semi-réaliste, mais avec une petite tournure à la Mario Kart qui fait qu'il est très, très accessible. Puis c'est ça. Son principal intérêt, en fait, c'est qu'il est bien puis il ne coûte rien.
Oh ouais.
Fait que c'est une belle étrangeté.
Un petit jeu de char qui ne coûte pas grand-chose, ça peut être le fun. Hein?
Voilà. Puis finalement, juste pour la curiosité, j'en ai peut-être parlé quand on a parlé des remakes. Harry Potter, Prisoner of Azkaban.
Je pense pas.
Donc, Harry Potter 3, sur les plateformes majeures, là, PlayStation 2, GameCube, tout ça, c'était un autre maudit jeu d'exploration 3D comme on voyait tout le temps à cette époque-là pour la franchise. On arrive en Game Boy Advance, c'est un RPG. C'est straight up un RPG. Nice. Les combats ressemblent d'ailleurs à Golden Sun.
Okay.
On a l'espèce de caméra semi-3D, toutes nos attaques sont des spells, il y a plein de trucs à collectionner dans l'environnement. La vue d'exploration normale, on aurait comme des bombes quasiment bobblehead. Le look n'est pas super cohésif, je dirais, entre la vue sur la carte, dans les combats, puis différents endroits du jeu, mais c'est straight up un RPG tour par tour traditionnel qui ont décidé de faire comme adaptation de Harry Potter 3, qui m'avait énormément surpris à l'époque. Puis c'est écoute, c'est un RPG dans le fond peu remarquable, mais en soi, c'est un RPG dessin. Puis encore une fois, c'est un autre jeu qui se ramasse dans les fonds de rack parce que c'est un jeu de licence d'un film. Ouais, mais c'est une belle curiosité, je trouve. Puis pour le peu que vous allez payer, je pense que ça vaut la peine au moins de le regarder puis de se dire, maudit, c'était quoi l'idée de mettre autant d'efforts pour un jeu que si peu de gens allaient jouer et sûr. Ou apprécier.
Mais non, mais lui, c'est sûr que si je le trouve, je vais m'amuser.
Ah, mais c'est hyper commun. C'est pas quelque chose que tu vas avoir de la misère à trouver.
Oh, ouais.
Fait que voilà, c'était ma sélection de Hidden Gem en GBA.
Moi, j'ai un Hidden Gem de Divan Quest. Ah, il y a un troisième gars sur le podcast. Ça paraît pas présentement. Il s'appelle Jeff.
Fait qu'on parle d'un sujet comme ça qui me touche moins. Hein? Je vous laisse, vous laisse geek out.
Dans ça là tu chantes ABC. Puis,
ABC. One, two, three.
Et voilà. Fait que c'est ça pour nous autres cette semaine.
Yes.
À bientôt.
Hey, salut.